Bonjour à toutes et à tous. Nous venons de chanter ces mots. C'est une prière. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Et j'ai pensé à vous parce que je sais que vous passez par les temps difficiles, chacun d'une manière ou une autre. Vous avez des soucis, même des enfants. Vous avez des fardeaux et pour vous, ils sont lourds. Mais Jésus est là. Il est là avec nous. Et il ne nous laisse pas. D'accord? J'espère que nous sommes tous encouragés par ces vérités, que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est notre berger, un bon berger pour chacun de nous. Ce matin, nous retournons à la lettre écrite à Tite, et nous sommes au chapitre 2. Mais pendant qu'on chantait notre cantique, le 204, nous avons chanté « Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître au divin roi. » Et je me suis posé la question, si Dieu prend notre âme et si sa flamme brûle en nous, quelles sont les manifestations de cette flamme qui brûle en nous? Est-ce qu'il faut devenir des mystiques qui vivent dans l'extase continuelle? Ou est-ce que la flamme de Dieu produit d'autres choses en nous? Et pour répondre à cette question, il ne faut pas sonder dans nos cœurs qu'est-ce qu'on pense que Dieu veut, parce que Dieu a déjà dit ce qu'il veut. Et nous trouvons ce que Dieu veut dans la Bible. Et c'est pourquoi qu'on prend le temps, le dimanche matin, dimanche après-midi, mercredi soir et pendant la semaine pour certains, pour étudier la Bible et pour savoir ce que dit le Dieu vivant. Et ce matin, nous allons continuer à voir ce que Dieu veut pour l'Église. En Tite, chapitre 2. Et je vous rappelle qu'on a résumé le message général de cette lettre en quatre lignes. Le Seigneur glorifié par une Église transformée au travers ses pasteurs désignés pour une société évangélisée. D'accord? On a les grandes lignes de cette lettre. Et une des lettres, c'est un peuple transformé. Qu'est-ce qu'il veut faire chez nous, ceux qui sont en Christ? Et nous pouvons lire au chapitre 2 que la volonté de Dieu touche tous les groupes qui sont dans l'Église. Par exemple, au chapitre 2, verset 1, il dit « Dites ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dites que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. » Même les vieillards ne peuvent pas dire « Bon, c'est fini pour moi. J'ai déjà fait ce que je peux faire pour le Seigneur. Je prends la retraite de la transformation. » Non, Dieu veut continuer. Il veut continuer à nous changer jusqu'à la fin de nos vies. Mais il continue parce que ce n'est pas que les hommes qui ont un certain âge. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, il y a une chose qui touche sur l'intérieur de ces femmes qui ont un certain âge. Il faut être transformé. Mais aussi, à cause de leur longue expérience, la transformation qui a déjà été accomplie dans leur vie, les femmes d'un certain âge doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et aujourd'hui, nous arrivons à voir ce que Dieu veut pour les jeunes hommes. Qui sont les jeunes hommes? D'accord, on voit ici, si Jean-Jacques est un jeune homme, tous les hommes qui sont dans la salle, ce sont les jeunes hommes. Non, c'est vrai. On est tous jeunes d'une manière ou d'une autre. Mais dans cette époque-là, il y avait deux façons de penser. J'ai lu un homme qui a dit, tout le monde qui a 58 ans et plus jeune, ce sont les jeunes. D'accord? Un autre homme a dit, non, bon, ça c'était un peu plus avant que l'ère du Nouveau Testament, mais l'ère du Nouveau Testament, les jeunes étaient les hommes qui avaient 40 ans ou moins. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure que ce que Paul veut dire ici s'applique à presque toutes les âmes qui se trouvent dans cette salle. Mais ce passage, ces versets parlent à plus que les âmes. Parce que regardez avec moi le verset 6. D'accord? Pour bien interpréter un passage, il faut comprendre un peu la structure, n'est-ce pas? Ce qu'on a ici, le verset 6, c'est le verbe principal, exhorte. D'accord? Exhorte, ça veut dire encourage, pousse un peu ces hommes à être quelque chose. Exhorte, encourage les jeunes gens à être croix. Dans ma version, le mot s'est traduit modéré. D'accord? Dans d'autres versions, c'est le mot sobre. Dans une autre version, c'est modéré, c'est sobre et c'est réfléchi. Dans une autre traduction. Et ce mot se trouve aussi au verset 5, chapitre 2, où nous lisons, je cherchais sur ma Bible grecque ici, le verset 5, c'est le mot retenu, traduit selon la nouvelle édition Genève. Ça, c'est pour les femmes. Et aussi, ce mot se trouve au verset 2, en parlant des hommes d'un certain âge. Il dit que les vieillards doivent être sobres, modérés, honnêtes. On trouve le même mot. Donc, quand il parle aux jeunes gens, il dit, je veux que tu les exhortes d'être une seule chose. Modérés, réfléchis, sobre. Ça, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les personnes ici. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes qui vivent d'une manière réfléchie. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut, au verset 6, qu'on vit d'une certaine manière réfléchie. Mais il continue au verset 7. Parce que maintenant, il va dire, ça, Tite, ça, c'est ce que tu dois dire aux jeunes gens. Mais maintenant, tu dois être quelque chose. Voyez-vous au verset 7. Te montrant toi-même à tous égards, crois. Un modèle. un exemple, n'est-ce pas? Vous le voyez dans le texte? Peut-être je mens, il faut regarder dans la Bible. Je ne mens pas cette fois-là. D'accord? Il dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement, et en fait ça c'est pas un participe dans le grec, un modèle de bonnes œuvres en ce qui concerne l'enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et dans ce passage, nous voyons qu'il y a un but. Si les jeunes gens doivent être réfléchis, modérés, sobres, c'est pourquoi? C'est pour protéger la réputation des serviteurs du Seigneur comme Paul. Et pourquoi? Parce que nous exaltons Paul? Non, parce que Paul représente qui? Dieu lui-même. Et je pense que nous avons tous vu dans le monde les pasteurs qui ont fait mal, qui ont péché. Et quel est le résultat? Tout le monde dit, regarde, ça c'est ce qui est leur Dieu. Ça c'est triste. Quand notre comportement reflète sur le Dieu vivant, quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pour ça, ce matin, nous allons considérer l'instruction pour les jeunes gens chrétiens, mais les choses qui vont s'appliquer à tous les groupes qui se trouvent dans cette église. Nous avons vu d'abord, quand on a commencé à regarder ce passage en Tite, que c'est en fait la grâce qui nous enseigne. Et ce que je veux ce matin, c'est pas de venir avec la loi, d'accord? Il faut être. Ce que je veux communiquer, c'est plutôt l'esprit de la lettre à Tite. Et l'esprit, c'est quoi? C'est que Dieu veut accomplir quelque chose chez les jeunes. D'accord? Dans notre monde, et c'est comme ça depuis les années et les années, j'ai lu beaucoup de citations sur la jeunesse, et des citations qui viennent de 1800, 1700, et ils ont tous dit la même chose. Hein? Les jeunesses aime la frivolité. Ça, c'était le message général. Un homme a dit, les jeunes sont toujours sérieux, mais ils sont sérieux sur la frivolité. Et c'est ça un peu ce que le monde nous enseigne. Lorsque vous êtes jeune, il faut se profiter de la jeunesse. Pensez pas au lendemain. Faites ce que vous voulez, parce qu'après, vous pouvez rattraper un peu si vous avez perdu les choses. Mais est-ce que ça, c'est la vérité? Ça, c'est pas la vérité. Demandez aux gens qui n'ont pas fait leurs études pendant leur jeunesse. Quelles sont les conséquences pour eux? C'est vraiment difficile après de rattraper, n'est-ce pas? Pensez aux gens qui se sont donnés aux drogues ou à l'alcool pendant leur jeunesse. Et même après, s'ils veulent s'échapper de ces choses, c'est vraiment difficile parce que les liens sont déjà là, les habitudes sont profondes. Mais quand même, le monde dit tout le temps aux jeunesses, il faut aux jeunes. Il ne faut pas être trop sérieux. Mettez tout le temps en pensant être à la mode, avec le peau bien bronzé, si possible. Ah ouais, ça c'est ce que nous disons. Mais le mot de Dieu pour nous ce matin, tous ceux qui sont jeunes, femmes, jeunes hommes, c'est que Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Et tout ce qui est mieux pour nous, c'est encapsulé, c'est résumé dans un mot, réfléchi. Qu'est-ce que cela veut signifier d'être réfléchi? D'accord? On va regarder certaines choses, la signification d'un caractère réfléchi. Si vous voulez être réfléchi, ça va toucher quoi dans votre vie? D'abord, comme j'ai dit d'abord, on a tous ces mots qui reflètent l'idée que dans le mot grec, il y a plusieurs aspects, plusieurs facettes. D'être modéré, d'être sobre, d'être raisonnable et d'être réfléchi. Et j'ai choisi le mot réfléchi parce que je pense que ça nous permet de regarder tous les aspects de ce que ce mot en grec veut communiquer. La deuxième chose, il y a une raison pour laquelle il faut prêter l'attention aux jeunes gens chrétiens. D'accord, j'ai un petit problème ce matin avec l'accent. Quel est le besoin? Pourquoi parler aux jeunes? Parce que c'est surtout chez les jeunes qu'on a un problème avec la réflexion, n'est-ce pas? On aime agir et après on réfléchit. Avec la maturité, on voit que ça ne marche pas tout le temps. En fait, rarement. J'ai trouvé cette citation par un homme qui s'appelle J.C. Ryle. C'était un pasteur en Angleterre. Et il a dit quoi? Il a dit, par la pousse, nous jugeons l'arbre. Par les fleurs, nous jugeons le fruit. Au printemps, nous jugeons la moisson. Au matin, nous jugeons le jour. Et par le caractère du jeune homme, nous pouvons généralement juger ce qu'il sera quand il grandira. La tentation, c'est surtout chez les jeunes hommes. Maintenant, je joue, après, je vais être sérieux. Et on le pense. Et peut-être ça va aller pour un jeune homme de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais quand vous avez 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans, et maintenant, de plus en plus, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est en train maintenant de façonner ce que nous serons à l'avenir. Et donc, les jeunes hommes, il ne faut pas penser plus tard. Plus tard. Plus tard. Il faut penser maintenant. Parce que de ma propre vie, je peux vous témoigner, c'est difficile de casser les habitudes qu'on a fait quand on avait 20 ans, 18 ans, 17 ans, 15 ans. Ils sont toujours là. Il faut les lutter, mais c'est beaucoup plus difficile après les années et les années de pratique. Donc, réfléchis dans plusieurs domaines de la vie. C'est quoi d'être réfléchi? Pensons d'abord d'être réfléchi dans leurs pensées, dans vos pensées. C'est quoi d'être réfléchi? La Bible nous donne, on voit ce mot plusieurs fois, par exemple en Marc 5 et le verset 15. C'est le récit où Jésus a guéri l'homme qui était possédé par les esprits impurs. Et il se trouvait dans le cimetière. C'est un homme qui criait tout le temps et il se meurtrissait avec des pierres parmi les sépulcres. Mais après qu'il a vu Jésus et Jésus l'a guéri, on lit qu'il était hors de sens avant, mais après sa guérison, il était dans son bon sens. C'est-à-dire, maintenant il peut réfléchir. Il sait ce qui est bon. Il vint auprès de Jésus et il vint le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. En Actes 26-25, Paul utilise le même mot grec en contraste avec le mot fou. quand il parlait à Festus, Paul dit, « Je suis point fou. » Très excellent, Festus, répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » C'est-à-dire, ses pensées étaient en ordre. Ils étaient en accord avec la vérité. Romains 12, 3 et 16, le mot grec communique les pensées qu'on peut avoir sur soi-même. Il dit, il ne faut pas avoir des fausses opinions de soi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Si vous êtes jeune et vous voulez avoir des pensées qui sont bien réfléchies, il ne faut pas être gonflé. D'accord? Il ne faut pas s'enfler en disant « Moi, je suis un peu mieux que je suis vraiment. » Il faut être honnête avec ce qui est vrai. 2 Corinthiens 5, 13, Paul utilise le mot en contraste avec l'idée d'être hors du sens. En effet, il dit, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Et bien sûr, il pensait qu'il était de bon sens parce qu'il voulait les enseigner et communiquer des choses de bon sens. Bon, à la lumière de tous ces passages, un jeune homme chrétien, Dieu veut que vous soyez, que vous pensiez d'une manière qui se conforme avec la réalité. Il ne faut pas vivre dans les choses qui ne sont pas réelles. Et ça touche bien sûr d'abord sur ce que vous pensez de vous-même. Je pense qu'on a tous la tendance de penser bien de nous-mêmes. Malgré toute l'évidence, je suis un homme de bien. Je n'ai pas un problème de colère. Je ne suis pas paresseux. Je sers tout le monde. Je suis très gentil. Mais si cela ne s'accorde pas avec la vérité, on n'est pas réfléchis dans nos pensées. Qu'est-ce que la Bible dit sur nous? Les jeunes hommes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'être gardés, préservés par la grâce de Dieu. Pensons d'une manière qui est réfléchie. Ensuite, selon Marc 5, 15, un homme réfléchi est un homme qui ne se fait pas mal. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de façons pour nous faire mal. Un jeune homme peut se faire mal par ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde et ce qu'il fait. Je pense, c'est quelque chose que mes enfants ont noté, hein. On a quelque chose en France et aux États-Unis qui est très intéressant. Tout le monde sait que fumer tue, n'est-ce pas? C'est écrit même sur les boîtes, les cartons. Mais qu'est-ce qu'on voit? Mes enfants m'ont dit, papa, mon maître, il m'a dit, il ne faut pas fumer. Mais je viens de voir fumer. Ce n'est pas que les maîtres qui font comme ça. On peut se faire mal. Et si on choisit de faire les choses jour après jour qui nous font mal, soit les choses spirituelles, soit les choses spirituelles, on ne vit pas d'une manière qui est réfléchie. On ne pense pas ça va aboutir comment. On dit le lendemain, peut-être ça arrive, peut-être pas. C'est pas réfléchi. Un homme qui est réfléchi pense à l'avenir. Quels sont ses projets? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on voit que les pensées d'un homme, d'un jeune homme, doivent être bien réfléchies. On doit considérer, il faut vivre selon la réalité. On voit aussi qu'on peut être réfléchi dans les paroles. Nos pensées peuvent être réfléchies, mais ils vont se démontrer par nos paroles. Un jeune homme chrétien doit avoir aussi des propos qui sont réfléchis. Comment savoir si les paroles d'un jeune homme sont réfléchies? D'accord? Les propos sont réfléchis s'ils d'abord servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et surtout chez les jeunes hommes, on a la tentation de dire n'importe quoi pour rire, pour avoir un bon temps, pour rigoler, parfois pour faire baisser quelqu'un. On dit n'importe quoi pour avoir la semblance d'être cool, de ne pas être exclu par les autres. Mais si nos paroles sont réfléchies, ils seront les paroles qui édifient, les paroles qui construisent, les paroles qui encouragent. Ce ne sont pas les paroles qui apportent le découragement, les blessures, la corruption. Deuxièmement, les paroles qui sont réfléchies, ce sont les paroles qui renoncent au mensonge. Éphésiens 4, 25 dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Pourquoi nous mentons? C'est à cause de la peur, n'est-ce pas? On craint de ne pas avoir ce qu'on veut. On craint qu'on sera puni. On craint que le maître va savoir qu'on a triché. On craint que le gouvernement va voir qu'on n'a pas payé nos taxes, nos impôts. Bon, je ne sais pas. Il y a beaucoup de craintes. Et la crainte nous pousse à mentir. Mais la Bible dit, si vous êtes bien réfléchis, vos paroles renonce au mensonge, jeune homme. Il ne faut pas mentir. Troisième chose, les mots qui sont réfléchis aident les non-croyants à comprendre la vérité du christianisme. Paul dit en Colossiens 4, 5 à 6, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Du dehors parle de ceux qui ne sont pas croyants. Et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et dans le contexte, ce sont les non-croyants. Une des bénédictions, j'ai parlé hier avec un frère, une des bénédictions de vivre en France, c'est que nos enfants et nous sommes entourés par les non-croyants. Parce que chez moi, aux États-Unis, tout le monde est chrétien et il y a beaucoup de chrétiens. On peut passer toute la vie avec les chrétiens. Mais ici, c'est difficile. Mais il y a une pression qui vient avec cette bénédiction, n'est-ce pas? Il faut poser les mots. Et jeunes hommes, vous avez le privilège avec vos camarades, vos collègues, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais faites attention, nos paroles peuvent communiquer ce qui n'est pas vrai. Il faut être vraiment réfléchi en parlant avec les autres afin que nous présentions bien ce qui est l'Évangile. Les jeunes gens chrétiens, Dieu veut établir dans nous la réflexion sur nos projets. Un jeune homme réfléchi est un homme qui pense à l'avenir. Il considère comment ses dons peuvent servir le Seigneur et son Église. Il n'est pas un homme qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Bon, je ne sais pas. Je vais déterminer plus tard, quand j'avais 40 ans peut-être. Non, un jeune homme qui réfléchit, pense maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour son Église? Qu'est-ce que je peux faire pour la société, la communauté où je suis? Il veut penser à l'avenir. Il a des projets et il sait comment il va essayer de les atteindre selon la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les projets d'un homme réfléchi? Il a d'abord des projets concrets. Pas par des choses qui sont floues. Hein. Un jour, je vais faire quelque chose de grand. D'accord? Non, il a des projets concrets. Un homme réfléchi ne parle pas des idées floues ni infaisables. Ce n'était pas moi, si j'étais un homme réfléchi en tant qu'un jeune homme, de penser à mon projet, c'est de jouer au basket dans le niveau professionnel. Parce que c'était clair, je n'avais pas les dons. Mais si j'étais toujours dans cette pensée, je vais jouer au professionnel, je n'étais pas vraiment un homme réfléchi. Il n'est pas content d'avoir les idées générales sur l'avenir. Il essaie de planifier en disant ce qu'il va faire si Dieu le permet. Il n'adopte pas des projets qui sont impossibles parce qu'ils ne s'accordent pas à la réalité. Un homme réfléchi est un homme réaliste en ce qui concerne ses dons, sa situation et les opportunités que Dieu lui donne. Une autre chose, le jeune homme, Dieu veut qu'on soit réfléchi dans notre comportement. Un jeune homme chrétien, il doit avoir les pensées, les paroles, les projets, mais aussi un comportement qui est réfléchi. Un comportement réfléchi, c'est quoi d'abord? C'est un comportement qui glorifie Dieu, qui pense surtout ce que je vais faire, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que, comme j'ai posé la question aux enfants ce matin, je pense que c'était Adeline. Pourquoi Dieu t'a créé, toi et toutes choses? Et la réponse est quoi? Pour sa propre gloire. Romains 11, chapitre 36. C'est de lui et par lui et pour lui qui sont toutes choses. Que sont toutes choses? De vivre un comportement réfléchi cherche la gloire de Dieu, mais un comportement réfléchi cherche aussi servir les autres. Un homme qui est réfléchi pense, comment je peux servir les proches? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Un jeune homme qui ne pense qu'à lui-même n'est pas un homme qui est réfléchi, qui vit d'une manière réfléchie. Et ensuite, d'être réfléchi dans le comportement évite des activités nuisibles. Caractère réfléchi est modeste. Il n'agit pas d'une manière qui demande l'attention. Et je pense que pour les jeunes hommes, ça c'est une tentation très, très, très forte. On veut que le monde nous voit. Pour notre beauté, peut-être, pour notre intellect, notre intelligence, pour nos muscles, quoi, je ne sais pas. Mais on veut être observé. Mais un homme réfléchi dit, la vie, c'est pas moi qui est au centre, c'est Dieu. Et il veut que je serve les autres. Voilà. Ça, c'est ce qui est la signification de ce mot d'être réfléchi. Et maintenant, on va considérer, deuxièmement, les caractéristiques d'un jeune gens réfléchi. Il est d'abord pur. Vous avez vu que Tite doit être un exemple, n'est-ce pas? Et s'il doit être un exemple aux jeunes, cela veut dire que Tite doit être quelque chose, mais les jeunes gens doivent être quelque chose aussi. Ils doivent agir comme lui. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il faut être pur dans son enseignement. Et ça parle du contenu, mais aussi la façon et la vie qui va avec l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas divorcer ce qui sort de la bouche et ce qui se trouve dans la vie. Par le mot pur, il veut communiquer quoi? Et le mot, en fait, en grec, c'est un mot négatif qui dit il y a une absence de corruption. Une absence de corruption. Si vous êtes un homme réfléchi, regardez votre vie et voir s'il y a un manque, une absence de corruption dans ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous pensez. Si vous êtes réfléchi, il y aura une absence de la corruption. Est-ce qu'il y a de la corruption dans notre vie? Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce que vous regardez sur les écrans de vos téléphones portables? Qu'est-ce que vous regardez sur vos smartphones, vos ordinateurs? Qu'est-ce que vous lisez, les livres, les articles? Regardez, qu'est-ce que vous regardez en tant que vidéo, en tant que photo? La musique que vous aimez, est-ce qu'elle suscite la corruption dans vos pensées? Considérez vos proches intimes. Sont-ils des moyens de grâce ou des moyens de corruption? Soyons honnêtes, Dieu voit-il la corruption ou la purité dans nos vies? Deuxième chose, il dit il faut être, son enseignement et sa vie doit être quoi? Digne. Qu'est-ce que cela veut dire? Un dictionnaire français le définit comme la valeur intrinsèque d'une personne qui commande le respect. Un dictionnaire grec décrit le mot comme un comportement qui indique que quelqu'un est extraordinaire et donc digne d'un respect spécial. Un tel homme est un homme dont les autres notent un certain niveau de supériorité. Je ne veux pas communiquer qu'il y a une attitude de supériorité. Ce que je veux dire, c'est que son comportement est supérieur des autres jeunes gens. Par exemple, prenons le cas d'un étudiant, une étudiante. Quand la majorité de sa classe passe leur temps en faisant l'enduit, il fait ses devoirs soigneusement. Il révise rigoureusement pour ses examens. Et normalement, les résultats indiquent qu'il est au-dessus le reste de sa classe en ce qui concerne ses efforts et ses capacités. Si les jeunes gens de notre époque sont connus pour rien, c'est pour le fait qu'ils se donnent en gros à la folie. Même le monde nous que les hommes deviennent adultes de plus en plus tard dans la vie. Les jeunes gens de cette église doivent se poser des questions. Mon comportement envers les autres exige-t-il le respect des autres? C'est-à-dire, quand je réagis avec les autres, quand ils me voient, est-ce qu'ils pensent, « Ah, ça c'est un jeune homme d'un niveau supérieur. » Ou est-ce qu'ils pensent, « Ah, les jeunes d'aujourd'hui. » Mes efforts pour réussir, est-ce qu'ils sont dignes du respect? Est-ce que je suis l'exemple de ma culture qui met le divertissement avant tout? Mes paroles indiquent-elles que je suis digne du respect? Est-ce que ma conversation est remplie de grossiers, des choses comme ça? Ma fidélité à ma parole indique-t-elle que je suis digne du respect? Est-ce que je fais ce que je dis je ferai? Et puis, Paul dit que les jeunes gens qui sont réfléchis, ils vont avoir des paroles qui sont saines. On a déjà considérer ça un peu. Mais ça fait référence à l'enseignement de titre. Il doit faire certain que son enseignement, même la forme et le fond, aide les autres à devenir saints dans le Seigneur. La doctrine de ce qu'il enseigne et la manière dont il enseigne doivent porter de la bonne santé spirituelle. Quand nous appliquons ces versets généralement aux jeunes gens, la plupart qui n'enseignaient pas dans l'Église, nous pouvons parler plus largement au fait que leurs paroles doivent donner la vie au lieu de la tuer. D'accord? Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Écoutez à ces paroles, d'accord? La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. Savez-vous que votre langue peut tuer? Savez-vous ça? Ouais, c'est choquant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Mais comment? Avez-vous jamais eu un mot de quelqu'un d'autre qui vous avait blessé vraiment, vraiment profondément? Ouais. Écoutez ces paroles, d'accord? La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Les jeunes gens doivent se poser plusieurs questions par rapport à leur parole. Mes paroles sont-elles normalement sarcastiques et pointues? Est-ce que j'utilise mes paroles pour édifier et pour baisser les autres? Ma manière de parler est-elle plutôt douce ou accablante? Mes paroles sont-elles remplies de ce que la Bible dit ou sont-elles remplies de la sagesse du monde? Si vous êtes un jeune homme qui réfléchit, vos paroles sont les paroles qui sont saines. Finalement, un homme qui est réfléchi, un jeune homme qui vit d'une manière réfléchie, c'est un homme qui vit d'une manière qui n'est pas reprochable. C'est irréprochable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit vivre d'une manière qui ne permet pas que les accusations des méfaits soient justifiées, soient prouvées. Une telle vie exige beaucoup de réflexion. On doit toujours se poser la question, est-ce que je fais ce qui est juste? Est-ce que je fais ce qui est bon? Voilà, les jeunes gens de cette église. Dieu veut accomplir ces choses en nous. Il veut le faire. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est la réputation de l'Évangile. Sommes-nous reconnaissants, d'accord? Sommes-nous vraiment convaincus que notre comportement en tant que jeunes gens peuvent ternir la réputation de l'Évangile de Jésus-Christ? Les autres, quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, je veux bien être un chrétien. Ou disent-ils? Bon, ils sont comme tous les autres, ils sont tous des hypocrites. Mais il y a de la bonne nouvelle. D'accord? Il y a de la bonne nouvelle. Parce que nous pensons que ce n'est pas possible pour les jeunes gens. Hein? Ce n'est pas possible. Mais pouvez-vous, par votre connaissance de ce qui se trouve dans la Bible, pouvez-vous penser à un jeune homme qui vivait d'une manière très réfléchie, qui se trouvait dans la Bible? Moi, je pense à l'homme qui s'appelle Jésus. Quand il avait 12 ans, il s'est trouvé où? Au temple, n'est-ce pas? 12 ans! Et devant les dirigeants du pays, hein, les hommes avec une formation très, très élevée dans les Écritures. Ces hommes étaient étonnés. Pourquoi? Parce que cet jeune homme, Jésus-Christ, était bien réfléchi. Il posait des questions profondes et il avait des réponses profondes. Savez-vous que cet homme Jésus a promis à tous ceux qui le suivent le même esprit qui peut accomplir en nous les jeunes le même niveau de réflexion? Si vous êtes ici, vous pensez, moi, je suis tout sauf que réfléchi. Je compatis. Et je veux toujours annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si jusqu'à ce point-là, vous n'êtes pas réfléchi, vous passez trop de temps en faisant la folie, la frivolité, la Bible nous dit clairement que Dieu pardonne tout péché en Jésus-Christ. Et il dit à chacun dans cette salle, si vous vous repentez de vos péchés, si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés du péché et des conséquences du péché. L'appel pour nous tous, c'est le même appel. Tournons-nous de nos péchés, de la frivolité. Tournons-nous vers